Chapitre 27, première partie. L'unique bien. Qui marche bien ne laisse aucune trace derrière lui. Qui parle bien ne donne à personne des raisons de le blâmer. Qui compte bien n'a besoin d'aucun instrument de calcul. Qui ferme bien ne se sert d'aucun verrou et pourtant personne ne peut ouvrir ce qu'il ferme. Qui lit bien n'utilise pas de corde et pourtant personne ne peut délier ce qu'il lit. C'est pourquoi le sage excelle toujours à aider les humains et il n'en rejette aucun. Il excelle toujours à aider les choses et il n'en rejette aucune. J'appelle cela être doublement éclairé. Le bon est donc l'instructeur du méchant. Le méchant est l'instructeur du bon. Qui n'attache aucun prix à la puissance et ne chérit pas le luxe, quand bien même sa sagesse paraîtrait sottise, celui-là acquiert la sagesse suprême. En réfléchissant au chapitre 27 du Tao Te Ching, vous comprenez que Lao Tzu parle d'un comportement quintuple et d'une bonté quintuple qui en est la marque. La bonté dont il est ici question est d'une toute autre essence que celle de l'homme né de la nature, car le bien de Lao Tzu a un tout autre résultat que la bonté qui caractérise l'homme né de la nature. Lao Tzu part du seul bien hermétique, de l'unique bien. L'homme de la nature ordinaire, cependant, ne connaît le bien qu'associé à son inséparable compagnon, le mal. C'est pourquoi il est important, dès le début de ce chapitre, d'attirer votre attention sur ce point. Lao Tzu parle d'un tout autre monde que celui qui vous est connu. D'un ordre du monde et du comportement correspondant qui en résulte, ordre et comportement ne s'appliquant à aucun égard à la nature ordinaire. Ne l'oubliez pas, sinon toute réflexion sur l'antique sagesse chinoise aurait un résultat parfaitement négatif et donnerait lieu à de grandes difficultés dans votre vie. Ce monde, votre monde, n'a plus aucune connaissance de la grande réalité des deux natures. Il n'a plus connaissance du fait que le royaume des grands, par l'esprit, n'est pas de ce monde. Le très antique enseignement des deux natures est la clé de la manifestation divine du salut. Qui ne peut plus manier cette clé? Qui a perdu cette clé? Donc ne peut plus trouver le chemin de retour menant au royaume du Père, s'égare et s'enferre dans le labyrinthe de la nature de la mort. À cette lumière, considérons deux des plus importants phénomènes de notre monde et attitudes de l'humanité, la théologie associée à la religiosité naturelle et l'humanitarisme. Celui qui veut servir Dieu et comprendre la partie de la Bible qui n'est pas encore totalement mutilée, celui qui désire donc obtenir la béatitude éternelle, fera des efforts désespérés pour être vraiment bon et pour répandre la bonté autour de lui. Il essaiera de satisfaire aux exigences de la bonté par ses sentiments, ses pensées et ses actes. Mais dès que vous entreprenez pareille tentative, un fait douloureux surgit. Quand vous voulez faire le bien, le mal est à vos côtés. Oui, en pratiquant le bien de tout votre être intérieur, vous faites justement le mal de façon absolue. Votre bonté a des conséquences négatives. Votre bonté n'est pas payée de retour. C'est un échec complet. Ou bien le résultat positif au début se cristallise rapidement, se pétrifie totalement, tel le fossile de quelque chose qui était spontané et vivant. Comment cela se fait-il? Comment est-ce possible? Devant ce fait, le théologien, dans son aveuglement, repousse la conclusion irréfutable que la bonté qu'il a mise en pratique et enseignée à ses semblables ne pouvait pas être la bonté et n'avait rien à voir avec l'unique bien. Pour trouver une explication, il a donc inventé le diable. Lui qui avait précisément si peur du mal et voulait être si parfaitement bon, a fait du mal une réalité astrale. Cette simple pensée n'est pas illogique, car si, dans votre naïveté, vous croyez être bon et faire parfaitement bien en tant qu'être né de la nature, et que le résultat soit totalement opposé à ce que vous supposiez possible, alors il est bien évident qu'une force contraire doit agir, une force adverse. Eh bien, cette force est devenue le diable, car si vous pensez suffisamment longtemps au mal, que vous agitez donc votre mental, alors vous matérialisez le mal en raison des propriétés de la substance astrale. Quand cette matérialisation en arrive à vous nuire, et elle le fait puisque vous êtes son créateur et que vous éprouvez donc la présence de votre diable, vous mettez alors au courant tous vos adeptes et en parlez comme d'une doctrine. Et tous les vôtres, marchant dans vos traces, renforcent la matérialisation astrale négative créée par un seul homme jusqu'à en faire l'entité monstrueuse qui nuit à l'humanité entière et empeste l'ensemble de la sphère astrale. C'est la raison pour laquelle nous répétons la grande vérité gnostique. La cause de la personnification du mal, c'est la bonté de cette nature. Voilà la négativité, le manque de perspective de toute théologie, de toute religiosité selon la nature. Il serait très important que vous compreniez cela et vouliez l'accepter comme nouveau point de départ de la gnose. Vous pourriez par exemple accepter cette conclusion de Jésus le Seigneur quand il dit « Nul n'est bon, pas même un ». Dieu fasse que vous compreniez parfaitement cette parole. L'ordre de nature que l'humanité connaît, qu'elle éprouve et par lequel s'explique sa naissance, est un ordre dialectique, ce qui veut dire qu'il n'est pas une réalité absolue, qu'il ne peut pas l'être. Tout ce qui fait partie de l'ensemble de ces phénomènes, tout ce que l'on désigne comme ses propriétés, tout cela va et vient sans cesse. Il est, mais à un moment donné, il n'est plus. C'est le mouvement conforme aux lois naturelles des contraires. Il ne peut pas être absolu, il ne peut se manifester que dans le mouvement dialectique du monter, briller et descendre. L'humain nourrit en lui l'idée de l'unique bien. Il rêve de l'unique bien. Tous les êtres nés de la nature ont un élan vers le bien. Même le pire des criminels rêve du bien. Mais avec leur forme apparente d'être nés de la nature et dans la nature dialectique, il leur est impossible de réaliser ce bien, d'exercer cette bonté. Nul n'est bon, pas même un. Quand l'humain, à l'encontre des lois de la nature, pratique pourtant cette bonté, veut pourtant l'exercer et la qualifie à tort d'amour, il renforce seulement les oppositions. Il accentue souvent les contrastes. L'écart entre lumière et ténèbres devient beaucoup plus douloureux et les souffrances de l'humanité s'accroissent incommensurablement. Car la loi de la nature s'accomplit et par le mouvement des forces contraires, la lumière qu'il voulait conserver et à laquelle il s'agrippe se change en un noir d'encre et l'amour en haine. Sa réalité se change en illusion et sa vie est vaine. Dans sa lutte pour conserver et rendre stable ce qui peut l'être, il a, par ses activités sentimentales et mentales, fait du mal une réalité astrale dans sa propre sphère et à l'extérieur. Telle est la réalité dans l'illusion de la vie dialectique, et c'est ainsi que la sphère astrale tout entière est corrompue par la cohorte des archontes et des éons. Voilà les fruits de la religiosité selon la nature. C'est pourquoi innombrables sont ceux qui, au cours des siècles, se sont détournés de toute religion et tentèrent l'expérience de l'humanitarisme. Le résultat négatif de la religion était si évident, le chaos de la vie si grand, qu'un profond bouleversement était inévitable. Car la bonté à laquelle on aspirait n'était pas si bonne que l'on ne voulût conserver pour soi-même le meilleur morceau. Le moi conscient en fut fortement stimulé, et la lutte pour l'existence qui se manifesta ainsi mit en évidence à un moment donné l'immense contraste entre misère et richesse, entre les souffrances des opprimés et les excès des possédants. C'est sur ce sol que prit racine l'humanitarisme, la lutte pour la libération menée par les prolétaires de tous les pays, et une grande bonté grandit chez tous ceux qui voulaient aider les opprimés. La démocratie était née, et les droits de l'homme suscitèrent l'appel à la liberté. Quantité de mouvements furent créés pour venir en aide aux pauvres et à l'opprimé. L'Europe entière frémit de bonté humanitaire. L'opposition à la religion atteignit son sommet. Ce que l'Église n'avait pas su réaliser le serait par l'humanitarisme dans ses manifestations multiples et variées. L'Europe se trouvait à la pointe de la civilisation. La bonté y serait scientifiquement appliquée et tous les hommes deviendraient frères. Les quelques taches encore visibles ne seraient bientôt plus qu'un souvenir. Et voyez à notre siècle le résultat de cette vague de bonté. Une horrible épouvante, un carnage frénétique, scientifiquement mis au point, tel que l'histoire entière du monde, y compris la préhistoire, n'en a jamais offert en spectacle. Nous déplorons, dans notre école spirituelle, à juste titre, le sort affreux des cathares, les frères et sœurs de la fraternité précédente, et ce qu'on leur a fait subir. Mais on pourrait comparer les agissements de leurs meurtriers à ceux des enfants d'une maternelle par rapport à ce que notre siècle nous a donné à voir. Ce siècle éclairé, humain, sur un temps de bonté, a battu tous les records dans le domaine du plaisir de tuer, de la cruauté, de l'extermination et de la folie scientifique. Jusqu'à cette heure, l'extrême bonté a toujours révélé l'extrême bassesse, la bassesse maudite de l'homme. La misère humaine actuelle ne peut se décrire. Nous vous en épargnons les détails. Vous les connaissez. Que nous a apporté la civilisation? Dans quel labyrinthe l'humanité n'a-t-elle pas été conduite? Le labyrinthe de l'illusion, à faire frémir devant tant de larmes et de sang répandus. La bonté? Personne n'est bon, pas même un. La religion des nés de la nature, l'humanitarisme des nés de la nature, la science des nés de la nature, quelle immense et formidable faillite! Il se peut que vous ne soyez pas d'accord. Eh bien, l'expérience vous l'apprendra. La bonté humaine a laissé une grande trace derrière elle et chacun voit cette profonde plaie béante. Le monde est devenu à notre époque, entre tous les siècles, un horrible coupe-gorge, en dépit de la religion, de l'humanitarisme, de la science et du reste. Et Lao Tzu nous dit « Qui marche bien ne laisse aucune trace derrière lui. » Comment défendre un tel point de vue à la lumière crue de la vie présente? Nous tenterons de donner une réponse à cette question au chapitre suivant.